On croit que Dieu est capable de tout accomplir. Quel est le truc le plus fou que tu aimerais que Dieu fasse dans ta vie? Sérieusement. Quel est le truc que tu n'as peut-être jamais osé demander à Dieu? Ce matin, fais-le. Dans ton cœur, ose le faire. Non pas parce que nous sommes des mystiques, mais parce que nous croyons que Dieu est capable de tout accomplir. De tout accomplir. Et ça, c'est une réalité que nous voulons vraiment serrer notre cœur. Soyez les bienvenus. Très heureux de partager ces moments, avec vous. Nathanaël est à l'île Jourdain. Donc, c'est pour ça qu'on se partage, le travail, j'allais dire, ou plutôt le privilège, parce que prêcher, c'est un privilège. Et nous avons choisi de le faire d'une manière un peu particulière, puisque la prédication que Nathanaël va faire, comme celle que je vais faire, nous l'avons préparée à quatre mains. C'est-à-dire que nous allons prêcher le même thème, Nathanaël à l'île Jourdain, et puis moi ici à Colomiers. Alors on a bossé ensemble, on a construit l'essentiel, enfin on a construit la structure, les boîtes, ensemble, tout simplement parce que vous savez que dans la vision de l'Église, eh bien, il y a ce souhait, ce désir d'avoir eh bien, deux adresses, d'avoir deux églises, deux lieux, mais pour autant une seule Église. D'accord ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est livré à cette petite expérience. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le plus embêté, c'est moi. J'étais obligé de rentrer à la tête de Nathanaël et je peux vous dire que c'est compliqué. Et l'autre, t'as vraiment du mérite parce que voilà, ça c'est moi. Je suis très carré comme garçon. Je suis très structuré. Je suis voilà. Mais lui, mon Dieu, il part dans tous les sens. Mais que Dieu le bénisse en tout cas. Hein. Amen. Voilà, je vous propose que nous puissions réfléchir. Qui aime dormir parmi nous? Ah ouais, les jeunes, ok, les moins jeunes aussi. Bah, Stéphanie, ça ne m'étonne pas. Elle dort pendant toutes mes prédications, ok, super, nickel. Effectivement, le sommeil, c'est juste quelque chose qui est hyper important dans notre vie, dans notre corps, d'accord. Sans sommeil, vous savez qu'on meurt assez rapidement et qu'on devient fou, et c'est quelque chose qui est extrêmement très compliqué à vivre. Et dans notre quotidien, à certains moments donnés, on peut être privé de sommeil, pour toutes sortes de raisons. Soit parce que nous sommes en train de faire un burn-out, et dans ces cas-là, eh bien, il y a une fatigue qui tombe sur notre vie, il y a toutes sortes de choses qui passent dans notre tête, soit eh bien, on a des soucis et on a des nuits qui sont agitées. Bref, on est dans... Parfois, la gestion du sommeil, c'est quelque chose qui est quand même hyper compliqué, quoi. Je suis le seul ? Ah, parfois, la nuit, me réveiller, ce matin, c'était 4h30 du matin, voilà, c'est réveillé, clac. Et puis ensuite, ben voilà, la machine à soucis se met en route, et puis c'est difficile, et puis on se lève le matin, et parfois la journée de travail est compliquée. Et voyez-vous, ce qui se passe dans notre corps, ça se passe également dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments de nos vies où ben, il y a comme une somnolence, il y a comme une difficulté à trouver des forces et à se reposer en Dieu. Et quelque part, on tombe dans une forme de sommeil spirituel, pour plein de raisons que l'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, il est dit que dans les derniers temps, l'Église, d'accord, l'Église avec, un grand E, hein, d'accord, pourrait être victime de ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire cette forme d'endormissement spirituel. Ça fait partie du jeu, c'est quelque chose qui est annoncé. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. C'est une forme d'endormissement spirituel. Quand on est plus attaché au rite, et quand on est plus attaché à ce que l'on fait, quand on est plus attaché à venir à l'église et à occuper une chaise que eh bien, à se connecter à Dieu, c'est une forme d'endormissement spirituel. Et ce que je vous propose, puisqu'on a été à deux travailler sur cette prédication, d'habitude je fais trois points, mais là il vient d'en avoir cinq. Désolé, donc ça veut dire que la prédication va durer deux fois plus longtemps. Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Première chose, tu peux faire défiler les slides si tu veux bien. La première chose, slide suivante, c'est que la première chose qui peut endormir nos vies, et nos vies spirituelles, et ça c'est hyper classique, c'est le péché. D'accord ? Le péché est un somnifère pour nos vies chrétiennes. Vous le savez, nous sommes corps, âme et esprit. D'accord ? Et on le voit dans ce passage, alors que Jésus va s'adresser à ce paralytique et qu'il va le guérir, il va dire « Ok, prends ton lit, lève-toi, marche, mais ne pêche plus. » Le corollaire, j'allais dire, du relèvement de Dieu, c'est de se dire, de Jésus, c'est de se dire « Ok, je te guéris, mais dans ta vie, ne pêche plus. » Et je crois que Le péché fait la guerre à notre vie spirituelle. Nous sommes corps, âme et esprit. Et le péché fait la guerre à tout ce que nous sommes. Premièrement, le péché fait la guerre à notre corps. Alors, je vais être hyper bateau, vous me pardonnerez, mais fumer, c'est mal. Vous êtes content d'être venu à l'église pour entendre ça, ok ? Ben effectivement, le péché fait la guerre à notre corps. À partir du moment où je mets de la fumée dans mes poumons, les probabilités pour que je développe un cancer du poumon sont quand même relativement élevées. À partir du moment où je me gave de saucisson, ce qui est mon cas d'ailleurs, et de fromage, d'accord, il y a la probabilité que le taux de cholestérol puisse augmenter. À partir du moment où je ne prends pas soin de mon corps, à un moment donné, automatiquement, il se passe quelque chose. Et le péché, sous une forme ou sous une autre, fait la guerre à notre corps. De la même manière, il fait la guerre à notre esprit. On l'a tous vécu, hein. On vient dans un culte, un dimanche matin, on est vanné, on est crevé, et puis on est au contact de la présence de Dieu, et on ressort, parce que on a été en contact avec Jésus, parce qu'on a été en contact avec le Dieu vivant, et du coup, il y a des forces nouvelles qui nous sont données. C'est juste la parabole de Jean 15. À partir du moment où je suis ancré sur le cep, alors le sarment que je suis porte du fruit. Ça me donne une énergie d'être connecté à Jésus. Et qu'est-ce que le péché fait ? Clac ! Ça coupe cette connexion, ça coupe cette relation, et du coup, mon esprit est fatigué. Puis le péché fait la guerre à l'âme. Vous savez, l'âme, c'est ce qui est entre l'esprit et le corps. C'est là que réside, on pourrait le mettre, la chair, où il y a plein de désirs, où il y a plein de choses qui se passent. Et quand le péché rentre dans notre âme, ça fatigue. Vous savez, ce qui fatigue le plus l'âme, c'est d'être tiraillé. Est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas ? Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas ? Est-ce que j'accepte de plier ma volonté à celle de Dieu ou pas ? Qu'est-ce que je choisis de faire ? Notre âme, elle peut être fatiguée à cause du péché, elle peut être fatiguée parce qu'on ne parle pas, elle peut être fatiguée à cause de plein de choses. Mais quand la Bible dit qu'il y a des désirs qui font la guerre à l'âme, c'est bien vrai. Et voyez-vous, Jésus est venu pour nous donner du repos. Quand il dit ça, il parle du joug des pharisiens qui est sur le peuple d'Israël. Les pharisiens qui mettaient tellement de lois que quelque part l'âme, que quelque part la foi du peuple d'Israël était fatiguée. Je crois que Jésus, au-delà de ça, veut donner du repos à qui tu es, en te délivrant du péché latent qui est sur ta vie. Et là, on n'est pas du tout dans la moralisation. Parce que la morale dit, il faut que tu arrêtes par tes propres forces. La foi dit, en Jésus, tu peux être délivré de ton péché. Et ça, c'est différent. Et ce matin, j'aimerais que tu repartes avec cette assurance que Jésus va s'occuper de tes chaînes. Avec cette assurance que Jésus va s'occuper de ton addiction au chocolat. Avec cette assurance que Jésus est capable de s'occuper de ce qui fait la guerre à ton cœur, de ce qui fait la guerre à ton âme, de ce qui fait la guerre à tout ce que tu peux être. Quand les soucis viennent, Jésus est capable de s'en occuper. Et vraiment dans le champ de bataille que le péché génère dans ta vie. Parce que quand le péché est dans une vie, c'est des conflits dans la famille, c'est des conflits dans le couple, c'est des conflits avec les enfants. Quand le péché est dans une vie, c'est du conflit intérieur, c'est du conflit avec Dieu, c'est du conflit avec nous-mêmes. Et dans le champ de bataille qui est ta vie, si tu renonces à ton péché, si tu le confies à Jésus, alors il se produira quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu ressentiras enfin de la paix. C'est tout. Et tu sortiras de ce sommeil. Deuxième chose, c'est, slide suivante, lève-toi et mange. Pour à un moment donné, il y a cet enfant qui va mourir. Et Jésus va ressusciter et puis va lui dire la chose suivante, qu'on lui donne à manger. Je crois que dans nos endormissements spirituels, il y a bien deux choses qui sont indissociables, c'est dormir et manger. Parce que quand je dors, je ne mange pas. Okay ? C'est peut-être l'un des seuls moments où je ne mange pas dans ma journée d'ailleurs. Je suis un aspirateur de bouffe. Mais quand je dors et je ne mange pas. Par contre, ça peut m'arriver de me lever pour manger, mais ça c'est différent. Et donc, quelque part, se dire, ok, Jésus nous réveille, ou plutôt, quand je suis dans le sommeil spirituel, il se passe quelque chose, c'est que, automatiquement, je me coupe de la nourriture spirituelle qui est mon âme, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas dormir et je ne peux pas alimenter mon âme. C'est-à-dire que je ne peux pas alimenter ma foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, les soucis m'ont assailli, à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, je suis complètement esclave du péché, des soucis, des difficultés, alors le corollaire et le réflexe naturel, c'est que je cesse de m'alimenter spirituellement. Ce qui est complètement anachronique, parmi nous, il y a des personnes qui ont fait des marathons, qui ont couru, qui ont l'habitude de faire du sport. Je pense à Nancy notamment, qui est une grande sportive. Elle l'était, pardon. Excusez-moi. Et donc, finalement, elle sait très bien, et elle pourrait nous le confirmer, que quand on fait du sport, plus la course est longue, plus il est nécessaire de s'alimenter. OK ? Et nous, en tant que chrétiens, on fait le contraire. C'est-à-dire que plus quand ça devient difficile, le réflexe naturel que l'on a, c'est qu'il y a une rupture dans notre communion avec Dieu. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de prier, c'est plus compliqué de lire sa Bible, c'est plus compliqué de se tenir devant Dieu. Et donc, on aurait besoin de plus d'énergie pour tenir, et le réflexe que l'on a, c'est de moins se nourrir. Donc, essaye de vivre ce miracle dans ta vie spirituelle qui n'est pas possible dans ta vie physique. Quand tu dors, mange. Plus tu as sommeil spirituellement, plus c'est compliqué spirituel, plus les ténèbres sont lourdes sur ta vie spirituellement, et plus finalement tu as vocation à te nourrir. Chose qui est complètement anachronique, parce que la chair voudrait nous tirer vers une forme d'inactivité spirituelle, alors que nous avons besoin, au contraire, de nous attacher à la personne de Dieu. On est OK avec ça ? Jésus est le pain de vie. On se souvient d'Élie, Élie qui nous fait une dépression carabinée. OK ? Oh, un chrétien peut-être dépressif. Cool, ça me fait du bien, moi. Et donc, il nous fait une dépression carabinée, il est sous son genêt, il demande la mort. Il est perclus de peur, il a la trouille de Jézabel, il ne sait plus où est-ce qu'il est, le pauvre Élie. Et là, sous son genêt, il s'endort, en disant peut-être qu'avec un peu de chance, je ne me réveillerai pas. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ange cuisinier. Fabuleux. Il y a un ange cuisinier. Alors, je l'imagine, l'ange... Bim, un coup de pied dans les côtes d'Élie. Allez, tu vas manger mon gâteau et tu vas boire. Et là, il se passe un truc de fou. C'est qu'Élie, il y a un ange qui me file à manger. Je sais pas, moi, un ange se me réveille pour me filer à manger. Je pense que je saute sur mes pieds, etc. Lui, non, il va manger, il va boire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ronquer. Ça veut dire qu'il était bien atteint quand même. Franchement, sa dépression était bien profonde. Petite parenthèse, quand on a des frères et sœurs qui sont atteints de dépression, évitons d'être trop simplistes dans nos réflexions. La dépression, c'est une saleté, c'est une maladie de la volonté qui ne se traite pas avec une petite prière au coin d'un canapé, uniquement. Je ferme la parenthèse, c'était mon côté désagréable, vous ne le connaissez pas encore celui-là. Et puis, il va revenir une deuxième fois. Et je pense que l'ange, il devait être français. Il n'était pas réunionnais, il n'était pas mauricien, parce que les mauriciens ne savent pas faire les gâteaux. OK. Les Congolais non plus, on est bien d'accord. les gâteaux, c'est pas votre fort. Donc, je pense que l'ange était forcément français. Okay. Et donc, ou peut-être italien, parce qu'il y a des tiramisu qui sont franchement pas mal. Entre nous soit dit, il y a des tiramisu qui sont vraiment canons. Hein. Ça, je dis rien. Et là, l'ange va filer une deuxième part de tiramisu à Élie, avec un petit coup de cidre éventuellement. Et puis, Élie va marcher 40 jours. Pour aller se retrouver dans une grotte. Mais ça, voilà. Comme quoi, les gâteaux, ça ne fait pas tout non plus. Hein. Vous voyez ? Ce qu'on retient de l'histoire d'Élie, c'est que premièrement, c'est pas une petite lecture, ou c'est pas une lecture qui va forcément nous relever quand on est bien endormi, mais c'est la régularité de l'alimentation qui fera en sorte que nous reprendrons des forces. Ok ? Et deuxièmement, c'est que la parole de Dieu est l'outil. Et je mets parole sous plein d'aspects différents. On peut mettre la Bible, mais on peut mettre également la connexion qu'on a avec Dieu. On peut mettre la sensibilité au Saint-Esprit, mais là n'est pas le débat. C'est ça qui nous permettra de nous relever profondément. Ok ? Donc, apprenons à vivre ce miracle. Je dors et je mange en même temps. Plus c'est compliqué, plus je cherche à me connecter, plus je cherche à me nourrir, plus je cherche à connaître le pain de vie, que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que ça, c'est complètement en dehors de nos schémas. C'est complètement en dehors de notre manière de fonctionner et de manière d'être. Troisième chose, c'est que, quelque part, les deux points qui vont suivre vont dans la même direction. C'est-à-dire que, à partir du moment où je suis réveillé, la condition pour rester réveillé, c'est de rester dans l'action. On l'a tous vécu, hein. Vous mangez, ou alors c'est peut-être moi qui suis vieux, je mange, le midi, si j'ai le malheur de me mettre devant la télé, il se passe quoi ? Boum ! Une petite sieste. Le soir, c'est pareil, je suis... Mais catastrophé des fois. Je suis incapable de regarder un film, c'est compliqué, quoi. T'as pas le droit de te moquer de moi, toi, là-bas. Mais ouais, c'est... franchement, il y a des moments où, quand je suis inactif, on a tendance à piquer du nez, quoi. Il y en a même, paraît-il, qui sont couchés à 20h, d'après leurs enfants. Donc voilà, c'est, je dirais rien, mais bon. Et spirituellement, c'est pareil. Nous avons été sauvés pour être dans l'action. Et ce n'est pas pour rien que l'un des mots les plus souvent utilisés par Jésus, c'est « va ». D'accord ? Soit dans l'action. Soit dans l'action, dans au moins deux directions, alors que Jésus va délivrer eh bien, ce possédé, va lui dire, eh bien, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Première chose, le premier endroit où cet homme doit donner son témoignage, c'est quelque part dans sa maison. Et la maison, c'est quelque chose qui, en Israël, est extrêmement important. C'était un lieu d'accueil, c'était un lieu de partage. Il y avait une culture familiale qui était extrêmement forte, bien plus forte que dans notre monde occidental. Je crois que la Bible met en phase le fait que la famille, c'est juste quelque chose qui est essentiel et qui a vocation à être une priorité pour nous dans notre vie chrétienne. Que ce soit dans nos prières, okay, que ce soit dans nos préoccupations. D'ailleurs, on connaît bien ce passage de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à Timothée que celui qui néglige les siens est pire qu'un infidèle. Okay. Alors, je suis honnête intellectuellement et spirituellement, ça a un contexte, ce verset. D'accord ? Je vous le donne comme ça pour votre culture générale, parce que je sais que vous aimez être cultivé. Hein. Okay. Qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une distribution sociale dans les églises, d'accord ? Et il y avait certaines personnes qui avaient une famille, etc., qui venaient quand même chercher, d'accord, la distribution. Et l'apôtre Paul dira, attendez, c'est bien beau tout ça, mais il y a des personnes qui sont, il y a des veuves, il y a des personnes qui n'ont pas de famille. Donc la priorité est donnée à ceux qui n'ont pas de famille, et que celui qui néglige les siens, qui ne s'occupe pas des siens matériellement, est pire qu'un infidèle. C'est le contexte de ce verset. Mais finalement, ça nous montre une chose, c'est que ce soit d'un point de vue matériel ou que ce soit même d'un point de vue spirituel, okay, ma priorité, c'est ceux qui sont à côté de moi. Ma priorité, c'est ma femme, ma priorité, c'est mes enfants. Ma priorité, c'est vers eux que vont mes énergies spirituelles, j'allais dire, mes préoccupations. Et c'est vers eux que je soigne mon témoignage. Parce qu'entre nous soit dit, ça ne sert pas à grand-chose. Oh, pardon. Je peux le dire. Bon, de toute façon, il n'est pas là, donc il ne va pas me gronder. Mais ça ne sert pas forcément toujours à grand-chose de prier pour quelqu'un quand derrière, on a un témoignage qui est déplorable, quoi. Je dis ça, je dis rien. Si vous dites à vos enfants, ne dites pas de gros mots et vous passez votre temps à jurer. Ok, je dis ça, voilà. Petite pensée comme ça qui m'est passée par l'esprit. Un truc un peu bêta, voilà, comme les pasteurs peuvent en avoir de temps en temps. Mais c'est juste cette notion-là, quoi. De se dire, mon énergie, pour sortir de cette somnolence, pour éviter de tomber dans cette somnolence, c'est de rester dans l'action. Et pour ça, autour de moi, j'ai plein de gens qui sont là sur lesquels je peux mettre mon énergie. La deuxième chose, la deuxième direction, et ça, c'est un verset, j'ai presque failli dire, Nat, ne le mets pas. C'est un verset qui, franchement, je trouve hyper bizarre, parce que Jésus va guérir une belle-mère. Ma belle-mère est là, on peut l'applaudir. Vous pouvez vous lever, merci. Franchement, c'est un truc qui est bizarre, quoi. Ça montre vraiment toute la grâce et tout l'amour de Dieu, quoi. Jésus qui guérit une belle-mère. C'est un truc de fou, quand même. Mais Jésus aime tous les hommes et toutes les femmes, sans faire exception de personne. Et pareil. Et là, elle va dire quoi ? Jésus, une fois qu'il va avoir guéri cette femme, il va lui dire, allez, lève-toi et va servir, quoi. Et elle, spontanément, pardon, elle va se lever et puis elle va se mettre à le servir. Et au-delà de la notion de nécessité dans le service, il y a cette notion de santé spirituelle dans le service. C'est-à-dire que servir, m'impliquer, alors, que ce soit dans l'église ou que ce soit ailleurs, hein, c'est pour moi une nécessité pour rester debout. Je me souviens de ce jeune homme, fils d'ancien. Cet ancien était l'un de mes meilleurs amis. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et puis, ce jeune homme jouait au piano dans l'église. C'est un garçon brillant, hyper intelligent, etc. Franchement, on pouvait discerner un ministère don sur lui à plein nez. C'était juste extraordinaire. Et puis, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui ne partageait pas du tout les mêmes valeurs chrétiennes que lui. Et au-delà de son choix, ça va générer chez lui une culpabilité qui était juste énorme. Et ça va fracturer sa relation avec Dieu. D'un côté, il y avait son père qui lui expliquait à quel point c'était quelque chose qui était mauvais, puis il y avait toute son éducation, puis il y avait sa conscience, il ne se sentait pas en paix. Mais pourtant, bah, il était amoureux, quoi. Il était amoureux. Et quand on est amoureux, oh, t'as oublié Elodie maintenant, ça fait un certain temps. Tu sais plus, ça c'était réservé quand t'étais jeune. Mais parfois, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et on discute avec ce jeune homme, et puis il me dit, Olivier, je vais arrêter de jouer au piano. Je vais arrêter, je ne me sens pas capable, etc. Je lui dis, non, tu ne vas pas arrêter. Au contraire, tu vas continuer. Il m'a dit, pourquoi ? Je lui dis, tu arrives à louer Dieu ? Tu arrives à te connecter avec Dieu ? Il me dit, non. Mais non, parce qu'il y avait la culpabilité qui était entre lui et Dieu, et on le sait, quand il y a la culpabilité, c'est compliqué. Je lui dis, je pense que le piano, c'est le seul moyen qui te permet de garder un bout de relation avec Dieu. Et donc, plutôt que de descendre de l'estrade, je l'y ai mis et je l'y ai maintenu. Et chez lui, je lui ai donné des exercices de passer au moins 2 minutes à jouer un cantique pour se connecter avec Dieu. Son père est venu me voir, me dit, tu peux pas faire ça, il est dans une position de péché, truc, machin, bidule. Je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est moi le pasteur, c'est pas toi. C'est un gars du Sud, en plus. Il venait de Nice, c'est les gars du Sud. Oh, zut, je suis dans le Sud, mince. Enfin, non. Et donc, tu me laisses faire. Et ce jeune homme, ça a bien duré 6 mois, cette histoire-là. Jusqu'au jour où les choses ont fait qu'il y a eu une rupture, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Et il est sorti de ce marasme. Et aujourd'hui, il sert Dieu d'une manière extraordinaire. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je crois profondément que le service est une bénédiction, mais qu'il peut être également une béquille lorsque nous allons mal. Et je crois que tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de béquilles à certains moments qui nous permettent de tenir. Parce que il nous arrive assez fréquemment d'être des handicapés spirituels. Et peut-être que si je n'avais pas eu le ministère à certains moments, je ne serais plus là. Okay. Peut-être que si je n'avais pas eu l'Église, je ne serais plus là non plus. L'Église peut être une béquille. Si je n'avais pas eu certains services, peut-être que je ne serais plus là. Parce que l'action, le fait de faire, le fait de créer, le fait d'entreprendre, ça nous maintient éveillés dans les moments où nous pourrions nous endormir. Et donc, l'action est profondément spirituelle. C'est bien plus que de générer des œuvres, mais c'est le moyen, ou c'est l'un des moyens que Dieu nous a donné pour rester éveillé alors que tout nous pousserait à nous endormir. Ok ? Cinquième point. Vous voyez qu'on avance, hein ? Lève-toi et sors de ta tristesse. On est à Gethsémané, c'est la fin. Jésus est dans un combat spirituel, là, il sait qu'il y a des choses qui s'approchent, que la croix s'approche. Puis il demande à Pierre, Jacques et Jean de venir, puis de prier avec lui. Et alors que le combat se fait intense, les trois disciples vont s'endormir. Et l'évangile de Luc traduit de la manière suivante, il est dit qu'ils vont s'endormir accablés de tristesse. Ils vont s'endormir accablés de tristesse. Les quatre premiers points sont des points que l'on connaît bien. Mais celui-là est un petit peu particulier. À ce moment-là, la tristesse de Pierre, Jacques et Jean est tellement forte, c'est presque une tristesse spirituelle, que quelque part ils tombent dans le sommeil. On retrouve de la même manière les disciples d'Emmaüs qui, à cause de leur tristesse, vont quitter Jérusalem et ne vont pas être capables de reconnaître Jésus qui marche avec eux. On peut traverser des deuils. On peut traverser des choses extrêmement compliquées. Des moments de frustration, des moments où nous sommes tristes parce que Dieu ne nous exauce pas. D'ailleurs, tristesse et colère, très souvent, ça rime. La colère n'étant pas légitime chez les chrétiens, mais la tristesse, oui. Alors que la colère est tout à fait légitime. Mais bon, passons, c'est pas le lieu, c'est pas le débat. Et on peut, tellement notre tristesse est grande, se retrouver comme anesthésié dans notre relation avec Dieu. Je me souviens de cette femme, une Mauricienne, tiens. Elle avait perdu sa sœur. Et il y avait une relation fusionnelle avec sa sœur. Et quand je l'ai rencontrée, c'était une ancienne chrétienne. Et quand je l'ai rencontrée, je suis allé chez elle, c'était Bagdad là-dedans. La cuisine était dans un état, la salle à manger était dans un état. Je me suis assis sur les 2 centimètres de canapé à peu près propre où il n'y avait pas de linge, etc. Il y avait un enfant qui mangeait sur une table. C'était. Elle était en pleine dépression, elle était possédée, il y avait tout un contexte spirituel qui était terrible. Et le seul endroit dans la maison qui était clean, c'était l'autel devant laquelle elle priait sa sœur. Il y avait des photos de sa sœur qui étaient là, érigées, et 3 fois par jour, elle allait pleurer devant ces photos. La foi de cette femme avait été totalement inhibée par la tristesse légitime d'avoir perdu sa sœur. Et mon Dieu dans la vie. Alors, elle s'est convertie, voilà, enfin, elle est revenue à Dieu. Voilà, aujourd'hui, elle est dans l'église, c'est bien quoi. Mais mon Dieu, on peut prendre des coups sur la figure parfois, qui font que nos cœurs sont lourds, qui font que nos cœurs deviennent profondément tristes, qui font que nos cœurs, finalement, on n'est pas mieux que cette femme. On dresse des autels à notre tristesse. On passe plus de temps à regarder notre tristesse qu'à regarder notre Dieu, quoi. Et si je voulais prendre le psaume que l'on connaît bien, qui dit que, eh bien, suis au pied des montagnes, là. Et le psalmiste, il va regarder au-dessus des montagnes où se trouve Dieu. Et c'est comme si nous, nous étions devant cette montagne de tristesse et que nous n'arrivions pas à regarder au-dessus. Et franchement, c'est une source d'endormissement qui est juste terrible. Quand un sentiment légitime devient une montagne. Je conclurai, et ça c'est l'appel pour que la pianiste revienne. Je conclurai, ouais, on n'était pas coordonnés, donc c'est pour ça. En disant, en prenant un texte, enfin du moins en évoquant un texte qui, moi, m'a souvent parlé. Vous connaissez tous le prophète Samuel. Le prophète Samuel, à un moment donné de sa vie, il va nommer un roi qui s'appelle Saül. Puis il va y avoir une relation presque de père à fils qui va être nouée entre Samuel et Saül. Saül va être le premier roi. Il dépassait tout le monde d'une tête. C'est peut-être le premier élément marquant du ministère de prophète de Samuel. Puis Saül va devenir le roi apostate. Il va mourir. Et on retrouve Samuel dans sa maison. Et Dieu va venir trouver Samuel et va lui dire, hé, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Pour moi, c'est terminé. Maintenant, je vais t'envoyer vers une autre mission. Et c'est là que Samuel va aller David dans la maison d'Isaïe. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand pleureras-tu sur ton couple? Tu peux être passé par des moments compliqués, ton couple a volé en éclats, a été touché par l'adultère. Jusqu'à quand pleureras-tu sur ton couple? Il y a cette réalité qui est là, qu'il faut traiter, qu'il faut gérer. Mais la tristesse a pris une telle part, a pris une telle place dans ton cœur. Cette tristesse qui est teintée de colère, qui est teintée de rancœur, que finalement, eh bien, il y a comme une marque qui est là et qui assoupit ta relation avec Dieu. Cette tristesse de ne pas avoir été exaucé, cette tristesse d'être là et puis de galérer, d'être toujours dans les mêmes galères et qui finalement, on est fait pour se réjouir, quoi. On est des animaux qui où la joie est nécessaire, ça fait partie de notre carburant. Jusqu'à quand pleureras-tu sur ta situation? Et mon propos, c'est pas de dire que tu as tort d'être triste, au contraire, la tristesse, c'est un sentiment normal. Mais mon propos, c'est de dire que cette tristesse n'a pas vocation à cacher le soleil, quoi. C'est comme si tu vivais dans le noir perpétuel. C'est comme qu'il y ait des nuages dans nos vies, c'est normal. Regardez là, il y a des nuages, hier il a flotté, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et dans nos vies, il peut y avoir des nuages, surtout quand on vit en Bretagne, ok, c'est bon. Alors peut-être que tu vis en Bretagne en ce moment et que tu ne vois plus le soleil, ça marche. Peut-être qu'il n'y a que de la flotte dans ta vie, ça marche. Mais sache une chose, c'est qu'à un moment, les nuages, ils ont vocation à partir et qu'il y a toujours de la lumière qui arrive. Et le souci, c'est quand on ne voit plus cette lumière. Tellement, il y a presque un autel à la tristesse qui est dressé. Et c'est pareil pour tout ce que l'on a évoqué, lorsqu'il y a un autel au péché qui est dressé. Parce que le péché dans nos vies, on en a tous. Ok ? Ça vous choque ? Non ? Ok. Mais à partir du moment où on dresse un autel à un péché spécifique dans nos vies, alors la lumière ne peut plus venir. Et c'est là qu'il faut le renverser. À partir du moment où le fait, notre inaction, est devenu presque un autel qui nous empêche d'aller, qui nous empêche d'entreprendre, qui nous empêche de nourrir. Et c'est ça qu'il faut virer, quoi. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Samuel, il voyait la situation avec Saül comme un échec. Pour lui, il s'était craqué. Pour lui, il avait échoué dans son ministère de prophète. Il y avait presque un amalgame qui était là en disant, eh bien voilà, puisque Saül a chuté, alors, eh bien, c'est moi qui ai mal fait. Et en même temps qu'il pleure sur Saül, il pleure sur lui en fait. Il est dans un échec profond. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand pleureras-tu sur ce qui te semble être un échec ? C'est bon, il y a 21 siècles, Jésus est mort sur la croix pour porter tes échecs. Jésus est mort sur la croix pour porter tes erreurs, pour porter tes douleurs, pour porter tes souffrances, pour porter tes doutes, pour porter tes craintes. Et c'est ça le privilège que nous avons en étant enfants de Dieu. C'est que, eh bien, nous avons l'arme suprême contre la culpabilité. Oui, il y a toujours des échecs dans nos vies. Oui, il y a toujours de la noirceur. Mais on oublie une chose, c'est qu'à la croix du calvaire, à un moment donné, bien, tout s'est assombri de manière à ce que la lumière puisse venir dans nos vies. Et ça, c'est la réalité que tu as vocation à vivre aujourd'hui. Oui, c'est peut-être sombre. Ta vie est en Bretagne. Mais sache une chose, c'est que Jésus est au-dessus des nuages. Et que la lumière, elle porte toujours dans ta vie et dans ton cœur. Et mon Dieu, regarde autour de toi. À quel point la grâce de Dieu t'a accompagné. La grâce a été ton ciré alors que il y avait des trombes d'eau qui tombaient sur ta vie. La bonté de Dieu s'est manifestée. Il t'a tenu la main. Jour après jour, c'est comme s'il y avait juste les forces nécessaires pour tenir. Tu as connu que Dieu est ton bon berger. Alors ouais, c'est crado comme temps dans ta vie. C'est pas cool. Comme ça. Mais réveille-toi. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait froid ? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand il fait froid, quand c'est gris à l'extérieur ? Vous mettez, vous mettez dans votre canapé avec une tasse de thé chaud et un plaid. Non ? Qui fait ça ? Ouais. Eh, d'accord, merci Stéphanie, tu voulais pas le faire, mais voilà. Allez, vire ton plaid, va. Et sors, mets ton ciré. Et les oiseaux, ils chantent même sous la pluie, quoi. C'est bon. C'est le moment de sortir de chez toi, c'est le moment de sortir de ta tristesse. Dieu a quelque chose pour toi, va oindre, David. Va, sors de ton marasme, sors de ton sommeil. C'est bon, t'as suffisamment pioncé maintenant. Va, lève-toi. Lève-toi avec la force que Dieu te donne ce matin, avec ces quelques mots sur lesquels tu pourras t'appuyer. C'est tout ! Vas-y ! Et puis jour après jour, tu iras plus loin. Et puis bon, ça continuera à flotter, mais sache une chose, c'est qu'il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Allez, on se lève. Et puis, on va prendre la Sainte-Seine ensemble. D'habitude, on la prend en mode « Ouais, je suis pécheur, machin. » C'est très bien. Mais ce matin, j'aimerais qu'on la prenne sous une autre forme. Les frères peuvent s'approcher, frères et sœurs peuvent s'approcher pour la préparer. Vraiment comme une confession de dire « Ouais, il y a eu des ténèbres quand tu as rendu la vie. où il y a eu des ténèbres, lorsque tu as rendu ton dernier souffle. Mais ces ténèbres, ils ont eu lieu pour que dans ma vie, il y ait toujours la lumière. Et plus que ça, pour que je devienne moi aussi la lumière du monde. Tu peux l'être. Tu peux l'être. Et ça, c'est une réalité. Quel que soit ton quotidien. Alors, quand tu vas prendre ce pain, quand tu vas prendre ce jus de raisin, eh bien, fais-le comme une proclamation. Tu vas mettre tes lunettes de soleil spirituel à dire « Je vais être ébloui bientôt. » Parce que la lumière du monde vit en moi. Quoi. Et je vais ressortir et puis je vais voir la vie différemment. Je vais voir ma belle-mère différemment. Alléluia. Peut-être qu'elle aura appris à cuisiner. Le temps des miracles n'est pas passé. Je vais voir mon mari différemment. Je vais voir ma situation différemment. Et de grâce, ne prends-le comme une proclamation de force, comme une réalité spirituelle. Qu'il y a toujours de la lumière au-dessus des ténèbres. Et que derrière tout est sommeil, il y a la solution de Dieu qui est pour toi. On peut louer Dieu tous ensemble pour ça ou pas? Ça va? Ou alors vous allez encore faire vous timide là? C'est bon? Vous sortez de votre timidité? On y va? On se lâche un peu? On y va? Allez, à trois, on loue Dieu! C'est bon? C'est parti? On est capable de le faire? Oh purée, tu leur as donné quoi? Mais c'est pas possible, ils sont anesthésiés ces gens-là! Dans le 9-3, au moins, c'est, ouais, il n'y avait pas besoin de. On y va? On bénit Dieu ensemble? Allez, te bénissons Seigneur parce que tu es le Dieu de la vie! Nous te bénissons Seigneur mon Dieu parce que tu es le Dieu vivant, celui qui contrôle toutes choses. Seigneur, et c'est vrai, nous pouvons avoir nos endormissements, nous pouvons nous assoupir, nous pouvons fermer les yeux spirituels, nous pouvons cesser de te contempler. Mais il y a cette réalité qui est là, c'est que toi, jamais tu ne sommeilles, jamais tu ne dors, mais que sans arrêt ton regard est posé sur nous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu nous visites ce matin, merci parce que tu nous fais sortir de nos torpeurs, merci parce que tu nous fais sortir de nos craintes. Seigneur, tu renouvelles les forces, Seigneur mon Dieu, tu permets qu'il y ait des maisons qui s'ouvrent, Seigneur mon Dieu, et que des hommes et des femmes sortent de chez eux. Alléluia! Tu permets que, eh bien, mes frères et sœurs sortent de leur peur. Tu permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils sortent de leur tristesse, qu'ils sortent de leur péché. Alléluia! Et que la grâce de Dieu puisse venir. Merci, Seigneur mon Dieu, pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Je te bénis parce que le péché recule. Je te bénis parce que la maladie recule. Je te bénis parce que la tristesse recule, la colère recule. Seigneur mon Dieu, les rancœurs reculent. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que la lassitude spirituelle recule, le Saint-Esprit passe, Seigneur mon Dieu, et tu fais du bien, mon Dieu, parce que tu es vivant et parce que tu es glorieux, Jésus. Amen.
Amen. Alléluia. C'est vrai, comme Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, se sont mis à louer Dieu. Nous voulons ce matin louer Dieu. Louez Dieu afin que les portes des prisons s'ouvrent. Alléluia! Afin que la tristesse s'en aille. Alléluia! Et nous allons impacter toutes les personnes qui nous entourent. Alors oui, nous voulons prendre ce chant déclarant que Jésus est merveilleux, merveilleux nom. C'est lui qui a été couronné. Et alors que nous sommes en train de le louer, les portes des prisons vont s'ouvrir ce matin. Alléluia!